Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacquesaddy.org.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes bien sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. À écouter avec votre poste sur 96.2 FM, avec votre ordi ou smartphone sur le site jacquesaddy.org ou sur différentes plateformes musicales telles que Deezer, Spotify. Si vous ratez le direct, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast. Il est 15h02, c'est l'heure de l'émission Balance ton égalité. Commençons par l'édito de Léo qui va revenir sur un vote du Sénat.
Ah, devinez quoi, nos chers amis les sénateurs ont encore prouvé qu'ils faisaient preuve de clairvoyance et de modernité. 101 sénateurs, majoritairement des Républicains, ont fait une proposition de loi sur les mineurs transgenres. Cette dernière interdit toute opération ou transformation chirurgicale avec 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour les médecins qui aideraient les mineurs transgenres, mais aussi les parents qui ont donné leur accord pour que leur enfant transitionne. De plus, ils voudraient instaurer une stratégie nationale pédopsychiatrique, mettez bien ça entre gros guillemets, littéralement c'est un retour. Des thérapies de conversion pour les mineurs trans, alors que c'est une loi qui s'est vue interdire en janvier 2021, qui en plus a déjà été énormément critiquée par la communauté, et ce depuis les années 70. Ah, nos chers amis les sénateurs, occupez-vous de vos affaires! Arrêtez de vouloir façonner vos enfants sur un modèle qui est comme vous, un fossile! Si c'était vos enfants, vous croyez vraiment qu'ils seraient heureux? Ou plutôt qu'ils vont en finir avec la vie avec vos tels propos? On sait que le taux de suicide chez les personnes trans sans transformation médicale est 8 fois plus important. Je pense personnellement que le problème vient de là. Laissez les mineurs transgenres tranquilles. N'est-il pas important que ces enfants, ou que vos enfants, se sentent mieux? Sachez que si cette loi passe, vous aurez du sang sur les mains.
Balance ton quoi?
Balance ton égalité.
L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait,
c'est non.
Après cet édito haut en émotion, place à Balance ton égalité. Aujourd'hui, au programme, nous aborderons des sujets divers et variés. Nous commencerons par un point actu, suivi d'un portrait. Nous parlerons de la communauté LGBT+, au sein de notre société. Nous vous ferons une mise à jour sur l'avancée du projet Menstrues Solidaires, mis en place au lycée. Nous reviendrons sur l'entrée de l'IVG dans la Constitution. La sexualité sera à l'ordre du jour. Nous parlerons de la pratique du BDSM, puis nous débattrons de la sexualité dans les livres. Nous écouterons un montage tiré du film Barbie, ainsi qu'une pièce présentée par l'atelier théâtre. Et nous finirons avec une chronique sur le syndrome de la grande sœur. Gros programme aujourd'hui, alors ne perdons pas de temps.
Nous allons maintenant passer au point actuel de l'émission avec le changement de nom de la personnalité donnée au collège de Bourneville. Ambre, nous t'écoutons.
À l'occasion de l'ouverture d'un nouveau collège à Bourneville-Sainte-Croix, un nouveau nom dut être trouvé. Et c'est celui de Simone Sauter qui fut retenu. Mais qui est-ce, me diriez-vous? Simone Madeleine Juliette Sauter, de son nom complet, était une résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Née le 19 juin 1921 à la Vieille Lyre dans l'Eure. Elle devient enseignante et secrétaire de mairie. À ce titre, elle a d'abord fait des faux papiers et a transcrit des messages pour la résistance. Puis a fini par rejoindre le Maquis sur Couf, le mouvement de résistance de Pont-Audemer. En son sein, elle devient l'agent de liaison de son ami et chef du mouvement, Robert Leblanc, sous le pseudonyme de Puce. Elle transmet aussi des messages et transporte des colis, tels que des armes ou des explosifs. Elle a donc grandement participé à la libération de Pont-Audemer le 26 août 1944. Par la suite, en septembre, elle devient sous-lieutenant des forces françaises de l'intérieur. En tant que telle, elle va d'abord faire partie du 1er bataillon de marche, en direction de Bernay, puis du 129e régiment d'infanterie à Cherbourg. À la fin de la guerre, elle redevient professeure au collège Hyacinthe Langlois de Pont-de-l'Arche. Ainsi, en donnant son nom à un nouvel établissement, on a décidé de mettre à l'honneur une professeure et résistante locale.
Merci à toi, Orme. Je trouve ça personnellement génial qu'un collège ait décidé de choisir le nom d'une résistante, car on sait qu'en plus, ces dernières ont été assez invisibilisées. Et de plus, qui faisait partie du Maquis sur Couf, qui était le réseau de résistantes locales de l'époque. Maintenant, tu vas nous parler d'une autre femme, une philosophe, j'ai nommé Hypatie.
En effet, je vais vous dresser le portrait d'Hypatie, une philosophe, astronome et mathématicienne grecque de l'Antiquité. Née entre 355 et 370, elle est à la tête de l'école néo-platonicienne d'Alexandrie, dans laquelle elle enseigne les mathématiques et la philosophie à des étudiants de toute la zone méditerranéenne. Elle est décrite par Damaskios comme une femme extrêmement belle et gracieuse. Elle a aussi été présentée par Socrate le scolastique dans son livre avec, je cite, « Il y avait à Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait atteint de tels sommets dans les sciences qu'elle surpassait toutes les philosophes de son temps. Disciple de l'école de Platon et de Plotin, elle exposait les principes de la philosophie à ses auditeurs, dont beaucoup venaient de loin pour recevoir son enseignement. Grâce à la maîtrise et à l'aisance qu'elle avait acquise en cultivant son esprit, elle n'hésitait pas à apparaître en public, en présence des magistrats. Elle n'éprouvait pas non plus de gêne à se rendre à une assemblée d'hommes, car en raison de sa dignité et de sa vertu, il en admirait d'autant plus. » Ainsi, de cet extrait, on en ressort que c'était une femme brillante qui a su transmettre avec brio toutes ses connaissances à ses élèves. Elle va finir par mourir en 415, assassinée par des chrétiens fanatiques, des hommes de main de Cyril, un évêque connu pour avoir martyrisé les juifs. Il lui reprochait d'être satanique et d'avoir corrompu au reste l'ennemi juré de Cyril.
Très bien, je te remercie. Maintenant, nous allons passer à Résiste de France Gall.
Bien dirigé, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Que ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Suis ton cœur qui
Salut à vous. Je présente l'histoire des droits LGBT depuis maintenant 3 ans, que le temps passe vite, mon Dieu. Alors, mais je vous ai jamais fait mon ressenti en tant que personne queer dans notre société. Alors déjà, même si on a beau dire que les LGBT sont acceptés, il y a encore beaucoup trop de discrimination envers nous. On a encore des gosses qui se font jeter de chez leurs parents, on a des violences physiques, morales et sexuelles, on a des agressions dans la rue, on a par exemple des hommes qui se maquillent, qui portent des jupes, etc., qui ont encore peur de se promener dans la rue, peur de se faire agresser. On a aussi de la discrimination travail. Plus de 80% des personnes transgenres, donc binaires et non-binaires, ont encore des questions déplacées au travail et seulement 9 à 8% d'entre eux ont fait leur coming out en travail. Mais sérieux les gars, on est où là? Sérieusement, en tant que personne queer, est-ce qu'on peut vivre tranquillement? Sérieux, en plus déjà de subir cette violence dans la rue, au travail, à l'école, bah faut aussi se la farcir chez soi, face aux commentaires homophobes de la famille. Bon bah du coup moi j'ai développé ma petite technique, c'est que maintenant bah, je dis pareil que mes versions hétéro. Oh mais DJ, mais tu te rends compte? Putain mais les gays, on en voit partout à la télé, etc. Puis moi j'entends rien, je fais ah mais moi un homme et une femme, mais ça me dégoûte. Oh mais comment vous pouvez sortir avec quelqu'un qui est pas du même sexe que vous? Puis là les gens me regardent en mode mais t'es bizarre. Bah non, c'est toi qui es bizarre. Sérieux, qui fait ça? Vous allez pervertir nos enfants. Donc voilà, c'est pour essayer de faire en sorte qu'ils se remettent en question. Bon des fois ça fonctionne pas, donc malheureusement. Voilà, on prend juste pour un fou, mais c'est aussi pour tenter de voir comment les personnes réagiraient si c'était eux. Et en tant que personne transgenre, forcément qu'on a aussi des questions archi déplacées, du style, t'as quoi entre les jambes? Mais tu vas faire l'opération entre les jambes? Wow mec, t'es mon chir pour me demander ça? Mais sérieux? Surtout qu'à la fin, t'auras beau faire tout ce que tu veux, hormones, transition, phalloplastie, tout, on te sortirait quand même, mais tu seras jamais un homme. Bah écoute, ok, je serai jamais un homme, mais toi tu resteras con, Didier, ok? Bref, ces questions gênantes, même si on essaie de leur faire comprendre, bah on les vit encore, malheureusement. Et je trouve ça archi dommage dans un monde où on a une insécurité qui est présente, et même si on l'aura peut-être probablement aussi dans le futur, à cause de la montée de l'extrême droite qui continue de monter. J'ai énormément peur pour nos droits. Je sais que de toute façon, ce sera beaucoup, probablement menacé. On le voit déjà dans certains pays. Mais je me dis qu'au pire, j'irai habiter dans l'océan Pacifique, entre les deux mers. J'irai habiter avec les poissons. Au moins eux, ils me respecteront pour ce que je suis.
Alors merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ou des questions dans le public? Alors moi j'en ai une. Penses-tu qu'il puisse y avoir une évolution dans le bon sens dans notre société actuelle ou as-tu perdu tout espoir?
Alors je continue d'espérer parce que j'espère qu'un jour on pourra vivre normalement sans qu'on se pose des questions très étranges sur nous. Mais le problème c'est comme je l'ai dit avec la montée de certains régimes, certains extrêmes, je pense que cet espoir est un peu perdu. Et quand je vois les plus jeunes d'entre nous, notamment des personnes qui ont l'âge de mon frère qui sortent, alors c'est de l'homophobie mais très très violente, du style apparemment mon frère avait entendu de la part d'une des camarades de sa classe qu'au Cameroun on brûlait les gays et qu'il a dit mais faudrait faire ça en France. Bah ouais bah bien sûr, bah écoute bah non. J'ai dit j'ai une tête à faire à danser sur un bûcher, bah non. Donc je trouve ça énormément dommage, même si j'essaye de continuer à avoir espoir et je me dis il n'y a pas que lui, il y a aussi des gens qui de toute façon sont LGBT, qui sont de même âge que lui et qui du coup vont aussi combattre, mais j'avoue que des fois je perds espoir.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Alors, toujours dans le thème de la famille, vous allez tout de suite écouter une pièce montée puis présentée par le Club Théâtre dans le cadre de la journée de défense des droits de la femme.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Star Company va vous présenter une scène de théâtre orale qui représente un repas de famille classique. Donc, pour la mère, nous avons la mère jouée par Amalia, l'enfant joué par Anaïs, la jeune tante par Isis, l'oncle par Martin, le père par Océane, L'adolescent par Zélie, Le grand-père par Chloé et La grand-mère par Mary Jane.
En fait, à l'école aujourd'hui, on a parlé de la journée des femmes, mais j'ai pas compris ce que c'était.
Ce n'est pas la journée des femmes, mais la journée de lutte pour les droits de la femme. Ce n'est pas pareil.
De toute façon, c'est toujours la même chose, on nous fatigue avec ça depuis plus de 40 ans, c'est pareil, il n'y a aucune différence.
Mais oui, qu'est-ce que ça change de toute façon, hein ? Oh là là !
Si, je vous promets que ça a changé beaucoup de choses. Les droits des femmes ont réellement évolué. Regardez, par exemple, il y a la liberté d'avoir recours à l'avortement qui est entrée dans la Constitution le 4 mars. C'est important, ça.
Mais c'est n'importe quoi ! On n'a pas besoin de mettre ça dans la Constitution, hein ! Et puis, les femmes, elles vivent très bien. Si elles ont trop mal, elles font la péridurale comme tout le monde.
Oui, t'as raison, c'est n'importe quoi. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Maintenant, les gens le font pour n'importe quoi.
Mais non, Jérôme, enfin, tu te rends compte de ce que tu dis ? Les chiffres, ils n'ont pas changé. C'est simplement les personnes qui le font de manière légale maintenant.
Depuis quand tuer quelqu'un, c'est légal ? Vous savez, moi, quand ma femme a voulu le faire, j'ai refusé. Et regardez, aujourd'hui, on est très heureux. Pas vrai, Charlie ?
Bah, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, hein. Si tu pouvais éviter de le crier sur tous les toits, ce serait fort sympathique. Merci.
Tu vas voir quand on va rentrer.
Oh, détends-toi. Tu es perdu de te retrouver. Et de toute façon, elle jouait pas son rôle, donc...
Oui, et puis, elle était hystérique.
De nos jours, ce terme est utilisé comme insulte envers les femmes lorsqu'elles prennent de la place en société ou sont en colère. Grossièrement, tous les comportements qui feraient qu'un homme est, lui, qualifié d'homme avec du caractère. Et cette insulte est malheureusement énormément banalisée.
Vous savez, moi j'ai un ami, sa mère, il disait qu'elle était hystérique parce qu'en fait, elle en avait marre de son mari qui la battait tout le temps. Et elle s'est retrouvée trop tard dans un centre d'aide et elle est décédée.
Non, mais ça va jamais aussi loin d'habitude. C'est un cas spécial, hors du commun.
Mais chérie, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Il y a souvent des victimes qui viennent à l'hôpital à cause de ça. Il y a à peu près 150 femmes et 30 hommes chaque année. C'est désolant.
Oui, c'est vrai. Et puis, les séquelles physiques sont dévastatrices. J'ai une collègue qui fond à larmes à chaque fois qu'on en parle. C'est vraiment horrible.
Les séquelles physiques, ce sont les conséquences causées par l'acte de violence au sein d'une relation. Elles entraînent la douleur et ou une blessure physique sur la victime.
Exactement. Et il y a également des séquelles psychologiques qui sont très importantes.
Les séquelles psychologiques d'un acte de violence conjugale sont la dépression, des troubles psychosomatiques, le manque de confiance en soi, des excès de colère et de violence déraisonnables.
En cours, on a parlé de l'endométriose. Je pense que ça a un rapport avec ça.
Non, ça c'est juste une maladie que les femmes ont inventée pour avoir des jours de congé.
On n'a pas de jours de congé, mais ça sert à rien vu que j'ai jamais mal.
Mais mamie, mais t'es ménopausée, c'est normal. Hein.
Il y a énormément d'études qui en parlent. C'est très handicapant, je vous assure.
Parlons de l'endométriose, une maladie très souvent prise avec peu de considération alors qu'elle est apparue en 1927 où le gynécologue chirurgien américain John Samson déclare l'endométriose comme une maladie gynécologique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui atteint principalement l'appareil génital de la femme. Aujourd'hui, elle est diagnostiquée souvent par hasard avec un retard moyen de 7 années. Durant lesquelles la maladie a eu le temps de causer des dommages notables à différents organes. Il existe 4 formes d'endométriose. L'endométriose superficielle ou péritonéale, l'endométriose ovarienne, l'endométriose pelvienne profonde ou sous-péritonéale et l'adénomyose. L'endométriose touche aujourd'hui une femme sur 10, soit 4,5 millions de femmes en France, alors qu'elle constitue 51,6% de la population française. Et de ces 4,5 millions de femmes contraintes de cette maladie, 40% sont touchées d'infertilité. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes, avec un retentissement important sur leur vie personnelle et conjugale, mais également professionnelle et sociale, lorsqu'elle entraîne des douleurs chroniques de la puberté à la ménopause, entre environ 30 et 40 ans, en fonction des femmes. Les symptômes sont plus nombreux que l'on ne le pense. Cela ne s'arrête pas à une douleur intense à la tête ou au ventre, mais il y a également des troubles digestifs et urinaires aggravés durant les règles, une fatigue constante et des rapports sexuels douloureux. Chaque personne l'endure à sa façon et a un effet de douleur différente Actuellement, il existe des traitements, parfois de longue durée, mais des fois, certaines circonstances obligent à rendre ça plus complexe.
Waouh, mais je savais pas, c'est vraiment si handicapant que ça. Et pourquoi il n'y a pas de mesures mises en prise ?
Parce que les règles sont encore un sujet tabou aux yeux de la société. D'ailleurs, il n'y a pas que l'endométriose. Beaucoup de maladies du genre existent.
De toute façon, c'est comme les MST, non ?
Mais papa, c'est pas du tout la même chose. Et les IST, infections sexuellement transmissibles, c'est pas du tout pareil que l'endométriose, les fibromes ou les autres maladies liées aux règles. C'est vraiment des pathologies qui existent et qui ont aucun rapport avec les IST.
Ah bah, je comprends mieux, mais... Bon, de toute façon, ce genre de maladie, là, les IST, c'est pour les hommes.
Non, pas du tout. Pourquoi les IST toucheraient seulement les hommes ?
Bah, c'est un truc de gay, ça. Réfléchis, mon fils.
Non, mais toujours plus, hein. C'est super homophobe, ça, mamie.
Mais c'est quoi, un gay ?
C'est les PD.
Non, mais papa, ça va pas, ouais.
Vraiment, Alex, l'écoute pas. C'est deux hommes qui s'aiment, tout simplement.
Mais, du coup, on m'a pas forcément expliqué, mais c'est quoi la journée des droits de la femme, au final ?
Alors mon chéri, si j'ai bien tout compris, c'est une journée qui est dédiée pour les droits des femmes et contre l'inégalité entre tous les hommes, donc les humains en général.
C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui ont changé, mais c'est pas assez.
De toute façon, ça sert à rien de se battre, vous avez déjà les mêmes droits que nous.
Mais non, il y a des choses qu'on pouvait pas faire avant, comme ouvrir un compte en banque, mais depuis 65, on peut le faire, ça. Et puis, je crois que c'était en 72, il y a une loi qui disait qu'on pouvait être rémunéré autant que les hommes.
En effet, le 22 décembre 1972 pose le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. C'est à partir de ce jour que la discrimination salariale basée sur le sexe de l'employé fut illégale en théorie.
Balance ton quoi ?
Balance ton égalité.
Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
Bien sûr, ce repas est une caricature qui reste tout de même très présente dans beaucoup de foyers, ce qu'il faudrait évidemment changer. Merci d'avoir écouté.
Avez-vous eu des retours de votre pièce présentée à l'occasion de la journée des droits de la femme ?
Alors, on a eu beaucoup de retours positifs et surtout des questions par rapport à surtout aux maladies liées aux règles, parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, je trouve. Et donc, souvent, on a eu des retours par rapport à ça et demandé vraiment si les séquelles, elles étaient si graves. Et en fait, généralement, bah, c'était aussi beaucoup de filles qui se sentaient concernées, mais qui n'avaient pas beaucoup d'informations et qui voulaient en savoir plus.
Merci à vous pour votre pièce qui était vraiment parfaite. Maintenant, nous allons avoir l'avancement du projet Menstrues Solidaires du CVL. Adrien, nous t'écoutons.
Bonjour. Merci de m'accueillir. Déjà, c'est très gentil de me permettre de faire la promotion de ce projet qui nous tient à cœur. Alors, le projet se avance très très bien. C'est très positif. On a donc contacté plusieurs entreprises, donc deux très sérieusement qui nous ont répondu très favorablement. Donc la première, c'est Marguerite et compagnie. Donc c'est eux qui nous fourniraient principalement la boîte qui servirait donc de distributeur. Et donc une autre qui s'appelle Loubia, qui livrerait la même chose. Ces deux entreprises se sont engagées à être le plus compétitives possible étant donné notre situation, c'est-à-dire un lycée qui doit se faire financer à 100% par l'extérieur. Donc ils sont restés très bienveillants et très compétitifs avec nous. C'est très agréable de communiquer avec eux. Et le 26 avril, donc pendant les vacances, on a une réunion prévue avec le maire de Pont-à-de-Mer qui s'est engagé il y a bientôt un mois à financer à 100% le projet. Donc on va le rencontrer pour faire un devis et donc proposer ce devis au conseil d'administration et donc le faire avancer. Donc ça se concrétise à mort, si je peux le vulgariser comme ça.
Donc vous pensez que le projet pourra entre guillemets vraiment être mis en place, genre on aura vraiment les protections périodiques à quel moment, plutôt en rentrée prochaine, ou vous pensez que dès les fin avril c'est fini, c'est bon, on pourra
ça c'est assez compliqué de se projeter, mais si vous voulez être sûr d'une date, c'est que début de la rentrée prochaine, normalement, tout sera installé. Je ne peux pas vous garantir que ce sera fait avant la fin de l'année parce que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jours fériés. Ça dépend aussi de la disponibilité des entreprises. Donc, je ne peux pas rien promettre, en fait. Mais par contre, au début de la rentrée, oui, il n'y a aucun problème. Je pense que ça sera déjà fait.
Avez-vous déjà eu des retours de personnes du coup, qui étaient au courant de ce projet et comment ils le voient d'une manière positive ou...
Oui, il y a eu alors beaucoup. Ce serait un petit peu mentir, mais on a eu des réponses directes donc, qui sont venues sur Instagram, tout ça, ou des gens qui sont venus nous parler, avec de très très bonnes réponses, mais surtout un engagement et un soutien silencieux qu'on a eu. Par exemple, donc c'était la semaine dernière, on a fait une collecte de protection périodique au lycée. Et on a quand même, sur un lycée de 1300 personnes, récolté 1000 protections périodiques. Donc c'est considérable à mort. Hein. Donc ça prouve bien l'engagement des élèves derrière ça. Et il y avait vraiment, je vous l'ai dit, hein, donc 1000 protections, ça fait énormément d'engagement et énormément de personnes qui sont venues donner ce jour-là.
Eh bien, merci pour nous avoir annoncé un peu l'avancement de ce projet. Maintenant, je laisse la parole à Ambre.
Ces derniers temps, on entend beaucoup parler des problèmes environnementaux, sociétaux ou physiologiques. Enfin, une bonne nouvelle. En effet, Camille, tu vas nous parler de l'entrée de l'IVG dans la Constitution.
Alors oui, en effet, le 4 mars dernier, donc la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution. C'est une étape fondamentale qui restera dans l'histoire et qui a été votée par le Congrès réuni pour l'occasion à Versailles. C'est un vote favorable de 780 parlementaires contre 72 négatifs. La France, elle devient le premier pays au monde à faire entrer cette liberté dans sa Constitution. C'est un pas supplémentaire pour l'égalité, ainsi qu'un hommage à Simone Veil et à toutes les autres femmes qui se sont battues pour l'obtention de cette liberté. Donc la loi du 17 janvier 1975 qui dépénalise l'IVG, par exemple. Pourtant, ce droit fondamental est menacé avec l'interdiction à l'avortement dans certains États, comme aux États-Unis, donc le 24 juin 2022, ce qui a fait élever des voix pour qu'une telle régression des droits des femmes puisse se produire en France. Les mouvements pro-life se multipliant ces dernières années, l'entrée dans la Constitution de l'IVG était presque obligatoire pour qu'une femme puisse avorter sans avoir de remarques venant d'un manifestant contre ce même droit. Et donc du coup, pour savoir, les pro-life, donc en français c'est pro-vie, ils considèrent que la vie commence in utero, donc dès la fécondation et l'arrivée d'un fœtus. Et donc ils considèrent que l'avortement c'est un meurtre et donc pénalise cet acte.
Très bien, alors merci de nous avoir donné ces éléments. On va juste revenir un tout petit peu avant la loi Veil, donc comme tu l'as rappelé, qui a été votée le 17 janvier, qui a été appliquée le 17 janvier 75. Je vais rappeler que l'avortement, du coup, avant 75, était totalement illégal et donc la plupart du temps, c'était clandestinement qu'il était réalisé. Soit les femmes le pratiquaient seules, chez elles, avec des cintres et des aiguilles, ou alors assez, dans des cliniques assez douteuses. Alors vous devez vous rendre bien compte que les conditions d'hygiène n'étaient pas ouf, et en plus, beaucoup sont mortes à cause de ça. Donc ces femmes-là, on les appelait les faiseuses d'anges. Et enfin, un petit mouvement qui a fait quand même du bien à la population, c'est en 71, on a le manifeste des 343 salopes. Donc c'est des femmes célèbres qui avouent publiquement avoir pratiqué un avortement. Donc on a Catherine Deneuve ou encore Annie Arnaud.
Du point de vue du droit, enfin de l'évolution de la loi, la légalisation de l'IVG commença en France le 20 décembre 1974, après la décision de Simone Veil de le dépénaliser. Puis cette loi fut officiellement promulguée le 17 janvier 1975. Elle constituait donc à autoriser l'IVG jusqu'à 10 semaines de grossesse, soit 2 mois et demi, et seulement pour les femmes en situation de détresse. Autrement dit, seules les femmes ayant subi un viol, de l'inceste, ou encore les femmes mineures ou souffrant de dépression mentale étaient concernées. Cette condition de femme en situation de détresse fut relevée par Naja Vallaud-Belkacem le 4 août 2014 en tant que ministre du droit des femmes. De plus, depuis 2022, les femmes ont jusqu'à 14 semaines pour avorter. Et pour finir, depuis, récemment, comme l'a précisé Camille, ce droit est entré dans la Constitution.
Et du coup, je voulais quand même rajouter la difficulté encore aujourd'hui... Donc la difficulté encore aujourd'hui de trouver des centres ou des pratiquants qui acceptent de pratiquer des IVG, notamment dans les zones rurales avec la désertion médicale par exemple. Car les médecins ils bénéficient d'une clause de conscience donc, qui leur permet de refuser de pratiquer des IVG, mais ils sont obligés de transférer la patiente vers un confrère qui les pratique. Et donc les difficultés à trouver un rendez-vous aussi en centre hospitalier, qui peuvent parfois obliger les femmes à attendre un rendez-vous juste avant la date maximale légale, donc comme tu l'as dit Ambre, la 14e semaine de grossesse, et qui oblige la patiente du coup à pratiquer forcément un IVG par aspiration.
Alors restons sur la question des droits, Léo va continuer avec ceux des LGBT, avec l'inclusion du genre X sur la carte d'identité.
Alors, rebonjour à tous. Vous êtes au courant aujourd'hui que sur nos cas d'identité, on a un magnifique petit mot qui est notre genre afin de faire, afin de savoir notre civilité. Donc, soit il est marqué par M ou F. Donc, forcément, on a des la question qui s'est évoquée parce que lors de formalités administratives, on voit que bah, pour les personnes qui ne sont ni hommes ni femmes, on les oblige à se mettre dans une case et à rentrer dans la binarité du genre. Alors, heureusement, on a des pays qui ont adopté cette mention X, qui du coup remplacerait le genre. On a du coup les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, l'Argentine, le Canada, le Pakistan. Mais des fois, on va mettre la mention X avec ou sans condition médicale. Et en Europe, bah, on a aussi d'autres pays qui se posent la question, c'est les Pays-Bas et la Belgique. Alors, comme je viens de vous dire, en France, c'est soit M ou F, donc c'est très réducteur. Voilà, on rappellera que pendant un long moment, jusque dans les années 2010-2015, les femmes transgenres étaient obligées de se stériliser, se castrer pour avoir la visibilité F sur leur carte d'identité. Alors, je vais rapidement revenir sur le genre et le sexe parce que c'est assez compliqué pour certains à différencier les deux. Le sexe, c'est ce qu'on sait, avec ce qu'on est biologiquement. Donc, que vous ayez un pénis, vous êtes né homme, et si vous avez une vulve, un utérus et un vagin, vous êtes une femme. Le genre, c'est pas du tout. Ça peut être en adéquation avec le sexe, mais aussi pas du tout, parce que le genre, c'est une construction sociale, c'est comment on se construit socialement, c'est comment on évolue dans la société. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir un pénis et vous sentir femme, c'est tout à fait normal. Donc, comme je vous ai dit au tout début, il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent ni homme ni femme, ou qui sont un peu entre les deux, mais on peut se poser la question de comment on peut les aider à se faire, à se sentir mieux dans cette société où du coup tout est limite, tout est binaire. Alors, c'est également le combat des personnes intersexes qui représentent 3% de la population. Fun fact, il y a plus de personnes intersexes que de roues sur Terre. Et qui, du coup, eux aussi réclament du coup, cette mention X pour pouvoir enfin être eux-mêmes. Parce que je dois rappeler aussi que les personnes intersexes, depuis leur plus jeune âge, subissent des mutilations génitales afin de les faire absolument correspondre à l'un des deux sexes. Alors, du coup, j'ai posé la question à une personne qui était vraiment non-binaire pour lui poser la question si Yael était d'accord avec la mention X. Et Yael m'a répondu que Yael était pour. Yael se sent juste humain, sans genre. Puis ce serait pas Yael si on l'obligeait à dire t'es une femme ou t'es un homme. Yael ne se voit pas ce que cela ça change pour les autres que la mention X soit adaptée. Enfin, si les personnes ne sont pas concernées, ils n'ont pas leur mot à dire. Et enfin, ça provoquerait le soulagement et la reconnaissance des personnes intersexes et non-binaires. Il y a Arnaud Alessandrin, qui est sociologue, qui a déclaré « Cela rendrait la vie des personnes trans, intersexes et non-binaires autrement plus simple au quotidien. » Et ça, je suis complètement d'accord avec lui. « On serait plus obligé de se soumettre à la limite du genre. On pourrait enfin être nous-mêmes. Cette société doit s'adapter à nous. Et c'est pas à nous de s'adapter à elle. On a des droits et on a le droit de vouloir être en sécurité. De plus, comme je parlais tout à l'heure de ma chronique LGBT, des questions dérangeantes. On en a encore qui mettent beaucoup mal à l'aise certaines personnes dès qu'elles sont obligées de montrer leur carte d'identité. Quand on a des personnes qui vont se questionner sur la physique de quelqu'un parce qu'elle ne ressemble pas à sa carte d'identité, ça m'est déjà arrivé que moi, on regarde ma carte d'identité et on me dit « Waouh, il y a un changement !» Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de parler, surtout si on n'est pas out. Donc, en plus, nous outer en public, c'est moralement mal. Enfin, on ne connaît pas la réaction des autres. Et pour moi, les personnes transgenres, intersexes, non-binaires ne doivent pas avoir cette angoisse ni ce stress si un endroit demande la carte d'identité.
Alors, j'ai une question. Pour toi, selon toi, est-ce que la catégorie du genre est nécessaire sur la carte d'identité? Pourquoi ne pas la supprimer tout simplement?
Alors, pour moi, oui, c'est vrai qu'au pire, on pourrait carrément la supprimer. Ce serait aussi, je pense, un super truc également. Sauf que le problème, c'est que, là, je vais parler plutôt administrativement, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on est obligé de dire si civilement on est un homme ou une femme pour nous appeler monsieur ou madame. Donc, c'est assez compliqué de devoir enlever ceci, parce que, par exemple, si vous inscrivez sur un formulaire, on vous demande tout de suite votre civilité, donc c'est votre état civil, donc c'est homme ou femme.
Sur un choix de chansons très éclairé de la part de Monsieur Delay, vous venez d'écouter une chanson de Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog. Je vous laisse faire le lien sur la chronique qui suit et qui peut heurter la sensibilité des moins avertis. Léo, c'est à toi.
Ah, tu pratiques le BDSM, mais c'est comme dans 50 nuances degrés ? Non. Voilà, maintenant que tout est clair, on va parler aujourd'hui du BDSM, quelque chose qui est beaucoup représenté, mais qui des fois n'est pas bien représenté. Alors on va tout de suite définir le thème. Qu'est-ce que c'est que le BDSM ? Donc déjà on va définir les initiales. B pour bondage, D pour domination, S pour soumission et M pour masochisme. Alors, où est-ce que ça vient un peu ces mots ? Donc masochisme et sadomasochisme. Et soumission ou sadomasochisme, eh bien ça vient de deux personnes, ça vient de Donatien Alphonse François de Sade, qui était un marquis homme de lettres français, et lui qui aimait maltraiter les femmes pour son plaisir. Et on a aussi Léopold von Sacher Masoch, qui était journaliste, écrivain et historien autrichien, mais qui lui au contraire aimait se faire humilier et maltraiter par les femmes. Alors du coup, le BDSM, c'est un ensemble de pratiques quotidiennes et sexuelles qui utilisent la douleur, l'humiliation sexuelle ou encore la mise en place de certains fantasmes. Donc ça peut inclure la fessée, la flagellation, l'urophilie ou la féminisation forcée. Donc quand le BDSM se contracte entre deux personnes majeures et de confiance, et aussi que ces deux personnes se soient déjà renseignées sur le BDSM ou exercées le BDSM, et tous les deux vont signer un contrat avec des choses à ne pas faire, des choses à respecter, avec des noms, etc. On a du coup deux parties, l'AE dominante ou l'AE soumise. Alors du coup, on a plusieurs noms pour qualifier son, sa, dominé, son, sa, soumis. Donc on a daddy, mommy et baby, on a le maître et sa proie, et on a daddy, mommy et pupille. Encore une fois, on peut lier avec la chanson I Wanna Be Your Dog. Alors, juste, non, Kevin, c'est pas parce que tu as mis deux fessées lors de ton dernier repas avec ta meuf que c'est du BDSM. Le BDSM, c'est plus que ça. Les pratiques qui sont hors BDSM, par exemple, on appelle ça des pratiques vanilles, c'est des pratiques qui sont douces, voilà, comme la vanille. Alors du coup, le BDSM, c'est aussi pour tester ses limites, mais aussi également se découvrir sexuellement. On n'oublie pas aussi que le BDSM, c'est une des communautés qui respecte le plus le consentement. Ainsi que la confiance et la sécurité, c'est vraiment les mots-clés de la pratique du BDSM. Confiance, sécurité, consentement.
En effet, toute pratique BDSM doit être consensuelle et partagée. Il faut respecter les limites et les désirs de chacun chacune établis lors de la négociation. On a beaucoup de temps de parole et en effet, même si la douleur c'est au centre du contrat, eh ben on prend le temps de discuter, comme l'after qui est souvent après un acte sexuel afin de discuter de l'axe que chacun a aimé ou pas. On a également la présence du safe word qui lui est un mot choisi par ses partenaires pour stopper l'action en cours si elle est jugée trop éprouvante et ou si le consentement n'a pas été respecté. Par exemple, si dans votre contrat, vous avez décidé du mot « grenade bah », vous dites « grenade » et votre partenaire est censé s'arrêter. Et il doit s'arrêter parce que c'est vos limites, vous ne voulez plus. Et faut aussi... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de trucs en mode « ouais, mais du coup, elle m'a dit d'arrêter, etc. » Mais il faut vraiment comprendre ce nom comme un cadeau. C'est que la personne est consciente de ses limites et veut arrêter pour éviter que ça lui fasse mal et qu'après vous repreniez un schéma qui n'y est pas adapté. On a également ce que je pourrais appeler les feux de circulation, excusez-moi. Donc c'est l'annonce d'une couleur sur ce qu'on ressent et ce qu'on veut faire dans le contexte actuel. Par exemple, on va vous montrer une activité à faire, du baïonnage. On va vous dire, et là vous allez dire rouge pour stop, je ne veux pas, orange pour on ralentit, on souffle un peu. C'est peut-être trop limite, on attend et on peut réessayer après. Ou alors vert, qui est carrément « allez-y, on y va ». Alors malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, il y a certaines personnes qui abusent de la confiance de leur partenaire. On a des exemples de femmes qui ont subi des menaces de la part de leur conjoint, si elles n'exécutaient pas certains ordres, ou d'autres qui pensaient être consentantes, mais après réflexion, qui ne l'étaient pas. C'est pourquoi, dans cette pratique, je vous demande et je vous conseille de bien connaître la personne à qui vous voulez pratiquer. C'est super important, ne vous mettez pas en danger si jamais vous avez quelqu'un qui ne vous respecte pas et qui vous prend littéralement pour son chien, sans mauvais jeu de mots. Le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous voulez vraiment vous lancer dans cette pratique, c'est de beaucoup vous renseigner et pas de le faire avec n'importe qui. Encore une fois, et qui n'y connaît rien non plus. Voilà, le pire défaut, je pense, dans ces pratiques, c'est de ne pas connaître. Il suffit que vous ne connaissiez pas comment on installe un truc, bam, accident, vous pétez la jambe. Il y a aussi un truc qui est souvent revenu, c'est des fois, certains kinks ont de se faire brûler avec la cire de bougie sur des parties, etc. N'achetez pas n'importe quelle bougie, allez pas à Jiffy prendre de la cire d'abeille parce que vous dites que c'est écologique, encore pire, c'est celle qui brûle le plus. Vraiment, cherchez, faites des recherches, parlez-en avec des personnes. Et il y a même Yusti Horn, qui est formatrice spécialisée dans les pratiques kinky, donc osée et dominatrice professionnelle, qui a dit... Il est inutile de foncer acheter des accessoires si vous n'avez même pas été formé pour les utiliser sans risque. Le plus important des muscles à travailler dans ce genre de pratique, c'est votre cerveau. Vraiment, votre cerveau, il n'est pas habitué à ce que vous fassiez frapper et que vous subissiez de la douleur. Il faut l'accompagner et il faut aussi accompagner votre partenaire. Il y a des personnes qui pratiquent le BDSM qui se retrouvent avec des conventions ou sur des groupes sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'y aller.
Alors merci beaucoup pour cette chronique. Après les stéréotypes présents dans 50 nuances, Soline, Chloé et Amandine vont nous parler de l'accès libre à la sexualité dans la littérature.
Bonjour à tous. Lors de la dernière émission radio, nous vous avions parlé du livre aux milliers de lecteurs, Captive. Ce livre qui connaît un énorme succès phénoménal pose tout de même question, notamment sur l'âge de ses lecteurs. En effet, il contient des scènes à caractère souvent sexuel, mais aussi patriarcal, remettant en cause la place et l'utilité de la femme. Pour certains enfants, parfois âgés de 10 à 11 ans, lisent ce genre d'ouvrage qui porte un nom, la dark romance, aussi appelée new romance.
La dark romance peut faire penser à de la pornographie. Sur ce sujet, l'ARCOM nous donne quelques chiffres. Chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques, un chiffre en croissance rapide au cours des dernières années. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent en moyenne chaque mois sur ce genre de sites. Ils sont près des deux tiers à s'y rendre entre 16 et 17 ans. On peut noter que les hommes y sont 2,5 fois plus nombreux que les femmes, qu'ils soient adultes ou mineurs.
Bien que les hommes se tournent plus souvent sur la pornographie, les femmes préfèrent parfois se tourner vers les livres plus subtils en faisant exploser les ventes de livres portant sur la dark romance. Bien sûr, nous ne mettons pas en toutes les lectrices dans le même panier, mais il s'agit quand même d'une certaine vérité cachée. Ces lecteurs ne sont pas seulement en papier.
L'application de livres numériques gratuits tels que Wattpad, on compte en effet de nombreux livres de New Romance avec des passages à caractère souvent sexuel, souvent couplés de violences physiques et mentales, ou même des livres entièrement composés de rapports sexuels. Cette application compte 90 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 67,5 millions de mineurs, soit 75% des utilisateurs, et ça nous est révélé par le site Custodio.
De plus, certains de ces livres sont adaptés en film avec des scènes explicites, presque telles qu'elles sont racontées dans le livre, comme par exemple le célèbre film 50 nuances de gris. On le sait, la ligne entre le livre et le film est donc très fine, mais les conséquences n'en sont pas moins importantes. Plusieurs sondages montrent que les jeunes lectrices pensent que l'amour et la réalité présents dans ces livres sont identiques à la réalité.
En effet, souvent dans les livres, le garçon se montre violent, rabaissant, parfois même violeur, mais à la fin de l'ouvrage, il aime la fille et ils vivent une belle histoire d'amour. Mais cela n'est pas la réalité. Or, certaines personnes ne font plus cette différence et certaines filles pourraient venir à accepter ce genre de comportement en espérant une amélioration qui n'arrivera pas. Cela s'explique de par leur esprit assez peu mature pour différencier les deux situations fictives et réelles.
Pour essayer de pallier à cet engouement de trop jeunes lecteurs pour la dark romance, l'éditeur ou encore les librairies essayent de prévenir les clients sans arrêter cette poule aux œufs d'or. En effet, plusieurs moyens sont mis en place, notamment au dos des couvertures. On peut retrouver à côté du prix pour certains livres, un âge minimum conseillé pour le lire, ou encore des indicateurs de la fréquence de scènes pouvant choquer les jeunes lecteurs. Parfois même, notamment dans Captive, nous pouvons trouver dès la première page un rappel au fait que les actes écrits sont tous fictifs.
On le voit, la dark romance pose donc de nombreux problèmes de société, mais ce type de livre continue d'attirer toujours plus de lecteurs, toujours plus jeunes.
Amandine, peux-tu nous expliquer la différence entre la new romance et la dark romance ?
Alors oui, pas de souci. Alors déjà, la new romance, c'est quelque chose qui va être largement plus doux et plus à l'eau de rose, comme on dit, que la dark romance. Étant donné que la new romance, il peut y avoir des scènes à caractère sexuel, mais elles seront accompagnées d'amour et non de violences sexuelles ou de violences physiques autres, comme souvent les clichés qu'on peut trouver, qu'on fait lire aux enfants les plus jeunes souvent. Et au fur et à mesure, la new romance prend en âge. Et quand elle prend en violence, c'est ce qu'on appelle de la dark romance. C'est-à-dire que la violence sexuelle va apparaître, donc BDSM ou même le viol, le kidnapping, et après on passe sur la violence qui va être criminelle ou autre. Et donc là, c'est ce qu'on appellera de la dark romance. Donc comme on peut le voir par exemple dans le livre « À vif » de Belle Aurora, qui est un des plus dark que j'ai pu lire, où nous retrouvons donc le BDSM, et où la violence physique en fait partie, la violence psychologique aussi, parce qu'on y pense très rarement à la violence psychologique et qui atteint les jeunes qui lisent ce genre de livre et que faudrait faire en sorte de stopper, parce que malgré tout, les trigger warnings peuvent être notés, mais personne ne les empêche de les lire et n'empêche l'achat qu'ils font. Donc la new romance, les enfants les plus jeunes sont en âge de lire lorsqu'elle est vraiment très soft, c'est-à-dire qu'on comprend le cliché d'élève professeur. Je pense qu'un enfant de 12-13 ans n'aurait pas besoin de lire ce genre de choses. Mais le cliché de la fille pom-pom girl avec le joueur de basket, ils peuvent le lire, c'est pas très grave lorsqu'il n'y a pas de caractère sexuel ou pornographique à l'intérieur.
Moi, c'est une question, c'est à partir de quand sont mis les thriller warnings ? Parce que un jour, j'ai voulu acheter un manga à mon petit frère, il n'y avait rien du tout dessus, ça paraissait soft, c'était un policier dont tout ce qui est plus normal, je ne l'ai pas lu. Et un jour, je l'ai retrouvé sur sa table de chevet, ouvert à une... Enfin, j'aurais préféré ne pas lui donner, en fait. Et donc, j'ai rien vu aucune... Il n'y avait rien dessus. Donc, je voulais savoir à partir de quand vraiment c'était mis dessus et précisé.
Alors, du coup, les trigger warnings sont mis chez les romans, généralement. Chez les mangas, je sais que ça va être les noms qui vont différencier... Ouais, les genres. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nom pour les mangas avec des caractères pornographiques homosexuels, tout comme hétéro et ainsi de suite. Après, je ne saurais pas te dire parce que je ne parle pas la langue, mais je pense que tu peux te renseigner en fonction du nom qui est écrit dans cette langue-là sur le roman ou sur le manga. Parce que sur les romans, vraiment, les trigger warnings sont écrits en première page, comme sur Captive par exemple. Ou à la fin avec souvent des flammes ou des madames qui sont dessinées, ou vraiment à l'arrière directement avec le nom, la précision, comme là, si la dark romance c'est le genre, etc. Ou cet auteur, cette autrice est écrivaine ou écrivain de dark romance, c'est précisé sinon.
Merci à vous les filles pour cette prévention et ces explications. Maintenant, un peu de féminisme avec la reprise d'une tirade du film Barbie par le Club Théâtre, un montage de Chloé et Ambre.
Être une femme, c'est terriblement compliqué.
Je suis si belle et intelligente.
Ça me rend malade quand je t'entends dire que tu n'es pas assez douée.
En fait, il faut toujours qu'on soit extraordinaire, mais en même temps, on fait toujours les choses au travers. Tu dois être mince, mais pas trop.
Et tu n'as pas le droit de dire que tu veux être mince.
Il faut que tu dises que tu veux être en bonne santé,
mais tu dois être aussi mince.
C'est ça.
Il faut que tu aies de l'argent.
Mais tu ne dois pas en demander parce que c'est vulgaire.
Tu dois commander.
Mais il ne faut pas que tu sois dur.
Tu dois diriger, mais tu ne peux pas imposer tes idées.
Tu es censé aimer être mère.
Mais ne parle pas tout le temps de tes gosses.
Ta carrière doit être ta priorité.
Mais tu dois aussi t'occuper des autres en permanence.
Tu dois te justifier quand un homme se comporte mal, ce qui est insensé.
Mais si tu dénonces ça, on t'accuse de te victimiser.
Tu dois toujours te faire belle pour les hommes.
Mais pas trop, parce que sinon tu es une allumeuse ou une menace pour les autres femmes.
Parce que tu comprends, il faut que tu sois solidaire.
Mais tout en te démarquant.
Et tu dois te montrer reconnaissante.
Mais ne jamais oublier que le système est truqué.
Donc montre que tu n'es pas dupe.
Mais sois toujours reconnaissante.
Tu n'as pas le droit de vieillir.
Tu n'as pas le droit d'être insolente.
Pas le droit de te faire remarquer.
D'être égoïste.
De craquer.
D'échouer.
De montrer que tu as peur.
Tu n'as pas le droit de sortir du rang. C'est trop dur.
C'est trop contradictoire.
Et ne t'attends pas à recevoir une médaille
ou un merci.
Bref, tout ça pour dire que non seulement tu fais tout de travers,
mais en plus tout ce qui arrive
est de ta faute.
Je suis découragée.
Quand je vois qu'on passe notre temps à faire des efforts,
que chacune de nous, les femmes,
on se met dans tous nos états
pour être simplement
considérée.
Merci au Club Média pour cette magnifique tirade avec le magnifique montage qu'ont fait Chloé et Ambre. C'est vraiment très très émouvant d'écouter ceci. Nous poursuivons tout de suite avec Soline et Chloé qui vont vous présenter le syndrome de la grande sœur.
Y a-t-il des grandes sœurs parmi nous ? En tout cas, nous on l'est, et nous avons découvert que nous souffrons d'un syndrome très répandu, que beaucoup de grandes sœurs doivent avoir.
C'est un terme très populaire sur les réseaux sociaux. La grande sœur serait la deuxième mère de la maison. Elle est soumise à ce qu'on appelle la parentification. Il a été prouvé que les parents sont plus durs avec les premiers-nés et plus souples avec les seconds, tout simplement car celui-ci doit donner l'exemple.
Cela oblige les aînés à vivre dans les multiplications des tâches, souvent ménagères pour les filles, tout en étant les modèles des plus jeunes dans leur sphère scolaire, culturelle, assurer leur réussite autant de la fratrie que de la leur. Beaucoup de sœurs aînées se retrouvent donc avec la sensation de ne pas avoir eu d'enfance.
Au-delà des tâches ménagères, ce syndrome a un impact sur leur santé mentale. Par exemple, l'isolement, l'empêchement de retrouver ses amis pour s'occuper du foyer. Cela peut aussi avoir un impact sur leur caractère, stress, obsession du contrôle ou encore intégrer durablement l'exécution de ces tâches à répétition. Il arrive parfois qu'à l'âge adulte, certaines refusent même d'avoir des enfants, considérant qu'elles ont déjà été parents.
On sait qu'aujourd'hui, les femmes mènent une sorte de double vie, une au travail et l'autre à la maison. En 1880, les femmes s'occupent uniquement du foyer. Un lien était fait entre cette charge mentale et l'arrivée des règles. En 1880, elle était de 15 ans, elle est maintenant de 12 ans, comme nous le prouve une étude menée par l'Université de Californie.
Bien sûr, cela n'est qu'un facteur de cette puberté précoce. Il en existe plein d'autres. Nous ne mettons en aucun cas la faute sur nos mères qui font de leur mieux dans toutes les circonstances. Les scientifiques ont démontré que les garçons semblent à l'abri de cette parentalité précoce. Cela est simplement dû aux normes sociales, culturelles qui sont différentes entre les hommes et les femmes.
De plus, une autre étude montre que le stress émotionnel de la mère pendant la grossesse influe sur la maturité émotionnelle autant chez les filles que chez les garçons, mais que la charge de travail inculpée aux filles étant supérieure entraîne leur puberté précoce.
Rassurez-vous quand même, les femmes qui sont atteintes de ce syndrome ont plus de chances de réussir dans la vie et d'accéder à des postes haut placés.
Merci à vous les filles pour cette intervention. Je ne connaissais pas du tout ce syndrome et je trouve ça super important d'en parler. Est-ce que Ambre, toi tu le connaissais ?
Alors pas du tout, mais c'est vrai qu'en tant que grande sœur, on peut facilement se reconnaître dans ce que vous avez dit. Et comme quoi, un phénomène sociétal peut être assez commun à toute une catégorie de personnes, on va dire.
Balance ton quoi ?
Balance ton égalité.
L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait,
c'est non.
C'est déjà la fin de cette émission, avec dans la tête du négatif comme du positif. J'espère que cette émission a pu vous éclairer sur certains points. En tout cas, pour ma part, j'en ressors moins bête.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacquesaddy.org.
Un grand merci à tous nos chroniqueurs qui ont su nous passionner avec des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Merci aussi à la technique, à Lucia, Zoé, Ethan, Alice et Luna qui sans eux, tout ça ne serait pas possible.
Jacques Addy, c'est aussi la plateforme en ligne jacquesaddy.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacquesaddy.org.